Herbert George Wells. Le royaume des fourmis. Lorsque le capitaine Gériot reçut l'ordre de conduire sa nouvelle canonnière, le Benjamin Constant, jusqu'à Banama sur le Batemo, affluent du Guadalama, pour y secourir les indigènes menacés par une invasion de fourmis, il soupçonna les autorités de vouloir le tourner en ridicule. Son avancement avait été irrégulier et romanesque. Ses yeux langoureux et les sympathies d'une noble brésilienne avaient joué un rôle dans l'affaire. Le Diario ainsi que Lo Futuro s'étaient montrés regrettablement irrévérencieux en leurs commentaires. Il redoutait de fournir un nouveau prétexte à la moquerie. Créole, le capitaine Gériot se faisait de l'étiquette et de la discipline une conception purement portugaise, et il ouvrait son cœur qu'à Holroyd, l'ingénieur venu d'Angleterre pour livrer le bâtiment. Ses confidences, du reste, lui étaient une occasion d'entretenir sa connaissance de l'anglais. L'émission de ces « tsch » restant cependant fort douteuse. « Bon, voilà, moi, assurément pour me rendre ridicule. Que peut un homme contre des fourmis ? Elles viennent, elles s'en vont. » « Ah, il paraît, » répondit Holroyd, « que celles-là ne s'en vont pas. Ce lascar que vous m'avez dit être un sambo. Oui, sambo, une sorte de sans-mêlé. Eh bien, ce sambo prétend que ce sont les habitants qui cèdent la place. » Le capitaine fuma un instant avec nervosité. « Ce sont des choses qui arrivent, » opina-t-il enfin. Que sommes toutes des invasions de fourmis, tout ce que le bon Dieu voudra. Ayant eu une dans la Trinidad, une invasion de ces petites fourmis qui transportent les feuilles. Tous les orangers, tous les manguiers y ont passé. Et qu'est-ce que ça a fait? Quelquefois, des armées de fourmis envahissent vos maisons, des fourmis guerrières d'une espèce différente. Vous vous en allez, elle nettoie la maison. Alors vous revenez, la maison est nette, comme neuve. Plus de cancre là, plus de puces, plus de chic dans le plancher. Mais ce sambo, répartit Holroyd, assure que celles-ci sont d'une autre espèce. Le capitaine haussa les épaules rageur et considéra sa cigarette. Puis il revint à son idée. Mon cher Holroyd, dit qu'est-ce que je puis faire contre ces fourmis infernales ? Il réfléchit. Ben, c'est absurde, conclut-il. Mais dans l'après-midi, il se mit en grand uniforme et s'en fut à terre, d'arriver bientôt le précédent des jarres et des caisses. Holroyd, assis sur le pont, à la fraîcheur du soir, fumait pensivement et s'émerveillait du Brésil. Ils étaient à 6 jours en amont dans l'Amazone, à quelques centaines des miles de l'océan. De l'est à l'ouest, l'horizon rappelait la mer, et au sud, rien qu'une île en banc de sable, avec quelques touffes de broussailles. L'eau coulait continuellement comme d'une écluse épaisse et bourbeuse, animée par les crocodiles et les oiseaux pêcheurs, et comme alimentée par une inépuisable source de troncs d'arbres. Et cette désolation, une désolation absolue, lui remplissait l'âme. La ville d'Alenquer, avec sa pauvre église, ses huttes de chaume, ses ruines détrempées depuis les jours prospères de jadis, semblait minuscule et perdue dans cette luxuriance sauvage et déserte de la nature. Une menue pièce d'argent tombée dans un Sahara. Jeune encore, Holroyd voyait les tropiques pour la première fois, arrivant tout droit d'Angleterre, où la nature est, de par les haies, fossés et canaux, réduite à la plus parfaite soumission, et il découvrait subitement l'insignifiance de l'homme. Depuis 6 jours qu'il remontait le courant par des passes peu fréquentées, l'homme s'était fait aussi rare qu'un papillon de prix. avant-hier, on avait aperçu un canot. Hier, un poste lointain. Aujourd'hui, pas un être humain. Il commença à comprendre que l'homme est en réalité un animal peu répandu et qu'il n'a qu'une prise incertaine sur cette terre. Il s'en rendit mieux compte à mesure que les jours passèrent, tandis qu'il poursuivait sa sinueuse navigation vers le baptême, en compagnie de ce chef extraordinaire qui commandait à son unique canon gros qu'il était interdit de gaspiller ses munitions. Holroyd apprenait diligemment l'espagnol, mais dans la pratique il n'en était encore qu'à l'emploi du temps présent et du substantif, et la seule autre personne à bord, un chauffeur nègre, qui connut quelques mots d'anglais, les écorchait péniblement. Le commandant en second, de Kuma, parlait le français, mais une espèce de français différente de celle qu'on avait enseignée à Royal à Southport, et leur relation se bornait à un échange de politesses banales et de brèves remarques sur le temps. Et le temps, comme toute chose dans ce déconcertant nouveau monde, le temps n'avait rien de familier. Il demeurait aride jour et nuit. L'atmosphère était saturée de vapeurs. Le vent même soufflait des bouffées chaudes, chargées des miasmes des végétations putrides. Et les alligators, les oiseaux étranges, les insectes de toutes les espèces et de toutes les grosseurs, les scarabées, les fourmis, les serpents, les singes, semblaient se demander ce que l'homme venait chercher sous un ciel dont les soleils étaient sans joie et les nuits sans fraîcheur. Les vêtements pesaient d'un poids insupportable, mais à s'en défaire, on aurait risqué de cuire le jour et la nuit de s'exposer davantage aux moustiques. Le jour, la lumière vous aveuglait sur le pont et au-dessous, on suffoquait. Le jour encore, des mouches fort subtiles et malfaisantes se posaient autour des chevilles et des poignets. Le capitaine Gériot, seule distraction d'Hollywood à ses misères physiques, devenait terriblement ennuyeux, répétant quotidiennement la banale histoire de ses aventures, comme s'il disait un chapelet. Parfois, il proposait une partie de chasse, et il tirait sur les alligators. À de rares intervalles, il faisait escale à des agglomérations humaines, dans la solitude des arbres. Il s'y arrêtait un jour ou deux, s'installait à boire avec les uns ou les autres, et une nuit, il dansait avec des femmes créoles. Mais ce n'était là que de lumineuses éclaircies dans ce morne voyage sur le fleuve rapide, au bruit monotone des machines trépidantes. Une divinité généreuse et païenne, sous la forme d'une dame Jeanne, siégeait séductrice à l'arrière, et sans doute aussi à l'avant.
À chaque escale, Gériot recueillait des renseignements plus nombreux sur les fourmis, et il finit par s'intéresser à sa mission. « C'est une nouvelle espèce de fourmi, » déclara-t-il. « Nous allons devenir, comment appelez-vous ça, des entomologistes. Elles sont énormes, 5 centimètres, et il y en a de plus grandes. C'est grotesque. Nous voilà comme des singes chargés d'attraper des insectes. Mais elles dévorent le pays. » Et il s'emporta, secoué d'indignation. Supposez qu'il y ait tout à coup des complications avec l'Europe. Je suis ici, nous sommes bientôt au-dessus du Rio Negro, et mon canon inutilisable. Il caressa son genou et médita. Ces gens qui étaient là où nous avons dansé, ils avaient pris la fuite. Ils ont perdu tout ce qu'ils possédaient. Les fourmis entrèrent dans leur maison une après-midi. Tout le monde délogea. Vous savez, quand les fourmis arrivent, chacun se sauve et elles envahissent les habitations. Si vous restiez, elles vous dévoreraient. Vous comprenez? Alors bientôt, elles se retirent. On se dit, « Ah, les fourmis sont parties !» Les fourmis ne sont pas parties. Ces gens, ils ont essayé de rentrer chez eux. Le fils entre le premier. Les fourmis l'attaquent. Elles ont grimpé sur lui en bande. Elles l'ont mordu. Alors il bondit dehors, hurlant et courant. Il passe devant ses parents, en galopant jusqu'à la rivière. Vous y êtes ? Il se jette à l'eau et noie les fourmis, oui. Géryot se tut, approcha ses yeux limpides tout contre le visage d'Oloroyd et lui cogna doucement le genou avec le revers de son poing. Il meurt cette nuit-là, juste comme s'il avait été mordu par un serpent. Empoisonné par les fourmis ? Qui sait ? Fit Géryot en haussant les épaules. Peut-être qu'elle l'avait mordu terriblement. Quand j'ai pris du service, c'était pour combattre des hommes. Et ces choses, ces fourmis, elles viennent, elles partent. C'est pas une affaire pour des hommes. Dans la suite, il parla fréquemment des fourmis avec Holroyd, et à chaque fois que le hasard leur faisait rencontrer quelque fétu humain dans cette immensité d'eau, de soleil et de lointaines forêts, Holroyd, mieux initié à la langue du pays, pouvait reconnaître le mot Saluba, qui, comme la note dominante, revenait plus fréquemment dans la conversation. Il s'aperçut que les fourmis offraient quelque intérêt, et à mesure qu'il s'approchait du centre de leur ravage, sa curiosité augmentait. Géryot, presque subitement, laissa de côté ses vieux thèmes, et le lieutenant portugais eut son rôle dans leurs entretiens. Il savait sur la fourmi, coupeuse de feuilles, des particularités qu'il révéla volontiers et que Géryot traduisait pour Holroyd. Il parla des petites ouvrières qui pullulent et combattent et des grosses qui commandent et règnent et comment ces dernières vous grimpent jusque dans le cou pour y faire des morsures dont le sang coule. Il expliqua de quelle façon elles coupent les feuilles pour former un lit d'humus. Il assura que leur nid, à Caracas, s'étend souvent sur une centaine de mètres. Pendant 3 jours, les hommes discutèrent l'existence de Dieu chez les fourmis. Le débat s'anima dangereusement pendant le second après-midi, et Holroyd sauva la situation en allant à terre chercher les fourmis pour vérifier. Il capta divers spécimens et s'en revint. Quelques-uns avaient des yeux et d'autres points. Ensuite, le débat porta sur cette question. Les fourmis piquent-elles ou mordent-elles ? Oh, celles qui nous occupent, dit Géryot après enquête dans un rancho, ont de gros yeux. Elles ne courent pas en aveugle, comme la plupart. Non, non, elles se drapissent dans les coins et observent ce que nous faites. « Et elle pique ?» demanda Holroyd. « Oui, elle pique. Il y a du venin dans leur piqûre. » Il réfléchit. « Je ne vois pas ce que les hommes peuvent contre les fourmis. Elles partiront comme elles sont venues. »« Mais celles-ci ne s'en vont pas. »« Elles s'en iront, » répliqua Géryot. Après Tamandou, la rive s'étend sur une distance de 80 milles sans un habitant. Puis, pareil à un grand lac, c'est le confluent du fleuve avec la rivière Batemo. Plus loin, la forêt se rapproche jusqu'à enserrer étroitement le courant. La physionomie du chenal change d'aspect. Les troncs flottants y pullulent. Ce soir-là, le Benjamin Constant s'amarra avec des câbles à des arbres sous l'ombre même des branches. Pour la première fois depuis bien des jours, ils goûtèrent un peu de fraîcheur. Holroyd et Géryot veillèrent tard, fumant des cigares et jouissant de cette sensation délicieuse. L'esprit de Géryot était obsédé par les fourmis et les ravages dont elles étaient capables. Il se décida enfin à dormir et s'allongea sur un matelas posé à même le pont. Éperdument perplexe, ces derniers mots, alors qu'il semblait déjà assoupi, avait été de vous demander dans un grand geste de désespoir « Qu'est-ce qu'on peut faire contre des fourmis ? Tout ça est absurde !» Holroyd resta seul à écorcher les piqûres de ses poignets et médita. Il s'assit sur le bordage et écouta les halètements intermittents qui coupèrent la respiration de Jériot jusqu'à ce qu'il fût profondément endormi. Puis le clapotis du courant captiva sa pensée et y ramena cette impression d'immensité qu'il avait graduellement envahie à son départ de Para et depuis qu'il remontait le fleuve. Un unique feu brillait sur la canonnière. Un léger bruit de parole vint de l'avant, puis ce fut le silence. Ses yeux allaient du contour vague et noir des structures médianes du bâtiment jusqu'à la rive, jusqu'au sombre et évrasant mystère de la forêt, où s'illuminait de temps en temps une luciole et où bruissait sans cesse le murmure d'activités inconnues et inquiétantes. C'était la sauvage immensité de cette contrée qui le stupéfiait et l'oppressait. Il savait que les cieux sont vides d'êtres humains. Il savait que l'océan est démesuré et indomptable. Et pourtant, à ne pas sortir de son pays natal, il s'était habitué à penser que le monde appartient à l'homme. En Angleterre, cela est exact. Les bêtes sauvages vivent par tolérance, grandissent par contrat. Partout, les routes, les barrières, l'absolue sécurité s'étalent. Sur les atlas aussi, la terre est à l'homme, entièrement coloriée pour y montrer ses diverses revendications, en contraste frappant avec le bleu égal et indépendant des mers. Il avait accepté, comme une indiscutable certitude, qu'un jour viendrait où, partout sur le globe, prévaudrait la charrue et les cultures, de bonnes routes et de légers tramways, une sécurité organisée, durable, indestructible. Mais il en doutait à présent. Cette forêt illimitée, on la sentait invincible, et l'homme y figurait tout au plus comme un intrus, rare, toléré à titre précaire. Mille après mille, on voyageait au milieu de la lutte silencieuse, des arbres géants, des lianes étrangleuses, des fleurs arrogantes, et partout, l'alligator, la tortue, les infinies variétés d'oiseaux et d'insectes se sentaient chez soi, en leur immuable demeure, tandis que l'homme avait à peine prise sur des clairières rebelles. Il devait combattre la végétation, les bêtes et les insectes, pour prétendre à un semblant de conquête incertaine et chétive, et succomber victime du serpent et du fauve, de l'insecte et de la fièvre. En de nombreux endroits, le long de la rivière, l'homme avait dû manifestement lâcher pied. Cette crique déserte, ou ce qui gardait encore le nom d'une casa, et çà et là des murs blancs en ruine et une tour écroulée, donnait plus d'évidence à la leçon. Le puma, le jaguar, étaient bien davantage les maîtres, ici. Mais quels étaient les maîtres en réalité? À peu de milles plus avant, dans cette forêt, il devait y avoir plus de fourmis qu'il n'y a d'hommes dans le monde entier. Holroyd vit là une idée absolument neuve. En quelques milliers d'années, l'homme avait passé de l'état barbare à un degré de civilisation qui le faisait se croire maître de l'avenir et souverain du globe. Mais qui empêcherait les fourmis d'évoluer aussi? Celles que l'on connaît vivent en petites communautés, sans aucune espèce d'effort concerté contre le monde. Mais elles ont un langage, sont douées d'intelligence. Et pourquoi s'arrêteraient-elles là, dans leur état actuel, plus longtemps que l'homme ne s'était arrêté à l'état barbare? Supposons que les fourmis aient commencé à rassembler des connaissances, ainsi que l'homme y parvint à l'aide des récits et des livres, qu'elles inventent des armes, constituent de grands empires, soutiennent une guerre stratégiquement organisée, Il se rappela les détails que Géryot avait recueillis sur ces fourmis dont on approchait. Elles disposaient d'un venin semblable à celui des serpents. Elles obéissaient à des chefs plus capables que ceux des fourmis, poupeuses de feuilles. Elles étaient carnivores, et là où elles arrivaient, elles demeuraient. Rien ne troublait la quiétude de la forêt. L'eau clapotait incessamment contre les flancs du bateau. Un vol silencieux de phalènes tourbillonnait autour du feu de garde d'en haut. Blériot s'agita dans l'obscurité en soupirant. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » murmura-t-il. Et s'étant retourné, il s'immobilisa de nouveau. Alors il fut éveillé de sa rêverie, qui prenait une tournure sinistre par les bourdonnements d'un moustique. Le lendemain, au matin, Holroyd apprit qu'ils étaient à moins de 40 kilomètres de Baba, et les rifs captivèrent plus vivement sa curiosité. À toute occasion, il montait sur le pont pour examiner les environs. Mais aucun vestige d'occupation humaine n'était visible, sauf les ruines d'une maison sous les ronces et la façade verdie du couvent de Mojio, depuis longtemps abandonnée, où un arbre poussait ses branches par l'ouverture d'une fenêtre béante et de grandes lianes se nouaient au travers du portail lézardé. Des vols d'étranges papillons jaunes aux ailes semi-transparentes passèrent ce matin-là sur la rivière. Plusieurs se posèrent sur le bâtiment et furent capturés par les hommes d'équipage. Et ce fut aux approches de l'après-midi qu'on rencontra la Cuberta en dérive. À première vue, on n'eût pas cru qu'elle descendait de la dérive. Ses deux voiles hissées pendaient molles dans l'accalmie du plein jour, et une forme humaine paraissait assise sur le bordage avant, à côté des grands avirons de gouverne, rentrés sur les plaques-bords. Une autre forme semblait dormir, la face contre l'espèce de pont longitudinal que ces grandes barques portent en leur milieu. Mais il apparut bientôt, par les oscillations de son gouvernail et la direction qu'elle suivait, dérivant droit dans les eaux de la canonnière, que quelque chose allait mal à son bord. Géryot la surveillait avec une jumelle, et il fut frappé par l'étrange teinte foncée qu'avait le visage de l'homme assis, une face rouge, semblait-il, sans nez, le corps plutôt affaissé qu'assis, et plus le capitaine l'observait, moins il avait l'envie de s'attarder à cet examen, sans pouvoir néanmoins en détourner sa lorgnette. Mais il s'y décida enfin et fit sur la passerelle quelques pas pour appeler Holroyd. Puis il retourna pour ailer la Cuberta. Il la héla encore comme elle dérivait par son travers. Un nom, Santa Rosa, apparut clairement distinct. Tandis qu'elle s'engageait obliquement dans le sillage de la canonnière, elle tangua un instant, et soudain la silhouette de l'homme affaissé s'effondra, comme si tous ses membres se disloquaient. Son chapeau dégringola, découvrant une tête repoussante d'aspect, et son corps flasque s'écroula et disparut derrière le bordage. « Caramba !» s'écria Guy Géryot, et il s'avança au-devant d'Holroyd qui montait l'échelle de la dunette. « Avez-vous vu ça ?»« Il est mort, évidemment, » répondit Holroyd. « Le mieux est d'envoyer un canot accosté. » « Mais elle a quelque chose de louche. Mais avez-vous remarqué sa figure ?»« Non, non, comment était-elle ?»« Oh, elle était, je trouve pas de mots. » Étournant subitement le dos à Holroyd, le capitaine lança une série de commandements impérieux. La canonnière manœuvra et suivit une route parallèle à la barque. On mit à l'eau la chaloupe avec le lieutenant de Kuma et trois hommes. Alors, dévoré de curiosité, le capitaine fit se ranger la canonnière aussi près que possible de la barque que le lieutenant accostait, et Holroyd put examiner la Santa Rosa du pont à la cale. De toute évidence, l'équipage comprenait seulement ces deux hommes morts. Et bien qu'il ne pût distinguer leur visage, les mains crispées, aux chairs rongées, indiquaient qu'ils avaient été soumis à quelque étrange processus de décomposition. Pendant un instant, son attention se concentra sur ces deux paquets énigmatiques de vêtements souillés et de membres déjetés, puis ses yeux allèrent de l'entrepont, à jour où s'empilaient les malles et les coffres, à la petite cabine entrebâillée et vide inexplicablement. Il s'avisa alors que les planches du pont milieu étaient parsemées de taches noires en mouvement. Ces taches le fascinèrent. Elles remuaient dans toutes les directions, rayonnant autour de l'homme tombé, à la façon, l'image lui vint sans qu'il eût recherché, de la foule qui se disperse autour des arènes après une course de taureaux. Il s'aperçut que Gériot l'avait rejoint. « Capitaine, dit-il, avez-vous votre jumelle? Pouvez-vous mettre au point aussi près que ces planches-là ? » Gériot essaya, grommela et lui tendit la lorgnette. Après un moment de minutieuse inspection, « Ah, ce sont les fourmis !» déclara l'anglais, en rendant à Gériot l'instrument mis au point. Il avait eu l'impression d'une multitude de fourmis noires, semblables à celles de l'espèce commune, à part la taille, et différentes aussi par ce fait que quelques-unes des plus grandes portaient une sorte de robe grise. Mais son examen avait été trop rapide pour qu'il pût en saisir de plus menus détails. La tête du lieutenant du Cunard apparut au-dessus du bordage bâbord de la Couberta, et un bref colloque s'engagea. « Montez à bord, » dit Gériot. Le lieutenant objecta que le bateau était rempli de fourmis. « Mais vous avez des bottes, » répliqua le commandant. Changeant de sujet, le lieutenant demanda « Mais comment ces bateliers sont-ils morts ?» Le capitaine Gériot se lança dans des hypothèses qu'Holroyd ne put suivre, et les deux officiers discutèrent avec une véhémence croissante. Holroyd reprit la lorgnette et recommença l'examen des fourmis d'abord, puis du cadavre au milieu de la barque. Je tiens de lui une description très minutieuse de ces fourmis. Il m'affirma qu'elles étaient les plus grandes qu'il eût jamais vues, noires et se déplaçant avec une décision très différente des agitations mécaniques de la fourmi vulgaire. Une sur 20 environ était beaucoup plus grosse que ses compagnes, avec la tête exceptionnellement large. Ce qui lui rappela d'abord les chefs de travail qui commandent chez les coupeuses de feuilles. Ces grosses fourmis semblaient aussi diriger et coordonner les mouvements de la masse. Elles rejetaient leur corps en arrière d'une manière tout à fait singulière, comme pour se servir plus facilement de leurs pattes antérieures. Et il eut cette idée étrange, l'éloignement ne lui permit pas de le vérifier, que la plupart de ces fourmis des deux sortes partaient des accoutrements, avaient autour du corps des choses retenues par des liens brillants, tels que des fils de métal blanc. Il abandonna brusquement sa lorgnette, s'apercevant que la question de discipline entre le capital et son subordonné prenait les allures d'un conflit aigu. « C'est votre devoir de monter à bord !» criait le capitaine. « Ce sont mes ordres !» Le lieutenant semblait prêt à refuser. La tête d'un des matelots, Miller, l'âtre, apparut à côté de lui. « Oh, je crois que ces bateliers ont été tués par des fourmis !» dit tout à coup Holroyd en anglais. Sans répondre à Holroyd, le capitaine se lâcha, tout rouge. « Vous avez commandé de monter à bord » vociféra-t-il en portugais à son second. « Si vous ne montez pas immédiatement, c'est de la mutinerie. Une mutinerie flagrante. Refus d'obéissance et lâcheté. Mais où est le courage dont nous devrions faire preuve? vous mettrai au fer, vous ferai fusiller comme un chien. » Il déversa un torrent d'injures et de malédictions, trépigna dans tous les sens, brandit les poings hors de lui, frémissant de rage, et le lieutenant, muet et blême, le regardait. L'équipage se rassembla à l'avant avec des faces de stupeur. Tout à coup, lors d'un répit dense et d'esclandre, le lieutenant, arrivé à quelque héroïque décision, se souleva sur les bras et se hissa sur le pont de la Puberta. « Ah !» fit Lerio, et sa bouche se ferma comme une trappe. Holroyd vit les fourmis battre en retraite devant les bottes de Nakuna. Les Portugais marcha lentement vers le cadavre tombé, se pencha, hésita, empoigna la veste et retourna l'homme. Un flot noir de fourmis se précipita hors des vêtements de Kunha, recula très vite et piétina deux fois ou trois fois sur le pont. Holroyd reprit la lorgnette. Il aperçut autour des pieds de l'intrus les fourmis dispersées et agissant comme il n'avait jamais vu agir des fourmis. Elle n'avait rien des mouvements aveugles de l'espèce commune. Elle regardait le lieutenant comme un groupe d'hommes en raillant pourrait observer un gigantesque monstre qui les a mis en déroute. « Mais comment est-il mort ?» cria le capitaine. Holroyd comprit que le Portugais expliquait que le corps était trop mangé pour qu'on puisse rendre compte de la cause du décès. « Et qu'y a-t-il en avant ?» demanda Gerillo. Le lieutenant fit quelques pas et commença de répondre en portugais. Il s'arrêta soudain et d'un brusque geste secoua sa jambe. Il esquissa quelques mouvements très particuliers, comme s'il essayait d'écraser des objets invisibles, et marcha rapidement vers le bord. Là, il se reprit, fit demi-tour et se dirigea délibérément vers la cale, grimpa à l'appontement de proue, d'où l'on manœuvre des avirons de gouverne, se pencha un instant sur le second cadavre, poussa un gémissement et revint vers l'arrière à la cabine avec une démarche très rigide. Il se tourna face au capitaine, avec lequel il entama une conversation froide et respectueuse de part et d'autre, qui contrastait vivement avec la colère et les insultes récentes. Holroyd ne saisissait que des fragments du colloque. Il porta la lorgnette à ses yeux et s'étonna de constater que les fourmis avaient disparu de toutes les surfaces exposées du pont. Comme il scrutait l'ombre projetée par l'appontement, elle lui parut pleine d'yeux vigilants. D'abord, il fut décidé que la couverte a abandonné, mais trop pleine de fourmis pour y faire séjourner et dormir des hommes, serait remorquée. Le lieutenant se plaça à l'avant pour recevoir la mare et la fixer, tandis que les hommes, debout dans le canot, s'apprêtaient à l'aider. Holroyd, avec la lorgnette, surveillait la barque. Il était de plus en plus impressionné par ce fait qu'une activité immense, bien que menue et furtive, s'y déployait. Il découvrait qu'un nombre de fourmis géantes, oh, elles mesuraient environ 2 ou 3 pouces de longueur, et qui traînaient des fardeaux aux contours baroques dont il ne pouvait saisir l'utilité, se déplaçaient par petits élans d'un coin obscur à un autre. Elles ne se formaient pas en colonnes dans les endroits découverts, mais en lignes ouvertes, clairsemées, évoquant curieusement les bords de l'infanterie moderne, progressant sous le feu. Un certain nombre s'abritait sous les vêtements du cadavre, et un rassemblement énorme se massait le long du bordage par où Kutkuna devait bientôt passer. Holroyd ne les vit pas s'agir le vain lieutenant lorsqu'il s'en retourna, mais il est persuadé que leur attaque fut concertée. Et tout à coup, le lieutenant se mit à crier, à jurer, à battre ses jambes. « Je suis piqué !» hurla-t-il, en tournant vers Gériot une face accusatrice et haineuse. Alors il disparut le long du bord, glissa dans l'embarcation et se jeta immédiatement à la rivière. Holroyd entendit le jaillissement de l'eau. Les trois hommes du canot le hissèrent à eux, le ramenèrent à bord, et il mourut cette nuit-là. Holroyd et le capitaine sortaient de la cabine où gisait le corps enflé et contorsionné du lieutenant. Ils étaient debout à la poupe, contemplant la sinistre barque qu'ils traînaient derrière eux. La nuit noire et dense s'illuminait seulement d'éclairs de chaleur, spectraux et spasmodiques. La couverte, à vague triangle sombre, roulait dans le silence de la canonnière, voile pendante et claquante, et la fumée noire des cheminées, par moments avivée d'étincelles, s'en allait flotter autour de ces mâts balancés. L'esprit de Gériot revenait sans cesse aux paroles blessantes proférées par le lieutenant dans l'exaltation de sa fièvre dernière. « Mais prétends que j'ai assassiné !» protestait-il. « C'est tout simplement absurde. Quelqu'un devait aborder. Devons-nous prendre la fuite devant ces damnées fourmis dès le moment où elles se montrent ?» Holroyd ne répondit rien. Il songeait à l'assaut discipliné de ces petites formes noires à travers le plancher nu sous le soleil. C'est à lui qu'il incombait d'y aller, insista Gériot. Il est mort en faisant son devoir. De quoi peut-il se plaindre? Assassiné. Mais le pauvre garçon était, affolé. Il n'avait plus sa connaissance. Le poison le travaillait. Il y eut un long silence. Nous allons couler cette barque, y mettre le feu. Et après, la question irrita Gériot. Ses épaules se soulevèrent. Il projeta sa main à angle droit contre son corps. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » s'écria-t-il au diapason d'une colère aiguë. « En tout cas, reprit-il avec un éclair rageur, les fourmis de cette couverture, je les brûlerai vives. » Paul Roy n'avait pas envie de converser. Un lointain ululement de singes hurleurs emplit la nuit lourde de sons prophétiques, et comme la canonnière se rapprochait des mystérieuses berges, dans l'obscurité, l'impression se renforça de l'accablante clameur des grenouilles. « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» répéta le capitaine après un long intervalle. Et, devenant soudain actif, furibond et blasphématoire, il décida de brûler la Santa Rosa sans aucun délai. Tout le monde fut ravi de cette décision. Chacun s'y employa avec zèle. On hala la mare et on la coupa. Le canot fut mis à l'eau et les occupants lancèrent des morceaux d'étoupe imbibés de pétrole et allumés dans la couberta qui bientôt craqua et flamba joyeusement dans l'immensité de la nuit tropicale. Holroyd suivait des yeux la flamme jaune qui s'élevait contre les ténèbres et les éclairs livides qui découpaient fugitivement le contour des cimes de la forêt sur le ciel. Son chauffeur se tenait derrière lui, contemplant ainsi ce spectacle. Remué jusqu'au fond de ses ressources linguistiques, le mulâtre clama soudain « Saint-Iba, font crac-crac, waouh, waouh !» Et il éclara ça d'un large rire. Mais Holroyd pensait que ces bestioles, sur la barque pontée, avaient aussi des yeux et un cerveau. Toute cette histoire lui donnait une impression d'invraisemblance, de puérilité, de faute, mais que faire ? Cette question se posa avec une insistance puissamment renforcée dans la matinée, quand enfin la canonnière atteignit Badama. L'endroit, avec ses maisons au toit de feuilles sèches, ses étables, son vieux moulin à sucre revêtu de plantes grimpantes, et sa petite jetée de bois et de roseaux, dormait dans la moiteur matinale et ne montrait aucun indice de vie humaine. Quant aux fourmis, leur petitesse empêchait de les distinguer à cette distance. « Tous les habitants ont décampé, » remarqua Gériot. « Mais nous font cependant quelque chose. Nous allons appeler avec la sirène et siffler. » Holroyd manœuvra la commande de la sirène et du sifflet. Le capitaine fut pris d'une crise de doute de la pire espèce. « Bien, il y a une chose que nous pouvons faire, » reprit-il. « Et quoi donc ?» questionna Holroyd. « Ben, appeler et siffler encore. » Et l'ingénieur manœuvra de nouveau sirène et sifflet. Le capitaine arpentait sa dunette et gesticulait, agitait de pensées multiples. Des fragments de discours sortaient de ses lèvres. Il semblait s'adresser en espagnol ou en portugais à quelque imaginaire tribunal. L'oreille mieux exercée d'Holroyd perçut quelques mots à propos de munitions. Gériot formula soudain ses préoccupations en anglais. « Mon cher Holroyd, » s'écria-t-il en s'interrompant, « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ils prirent le canot, se munirent de la lorgnette et allèrent de près procéder à l'examen du lieu. De grosses fourmis en nombre devinrent apparentes qui, par leurs postures immobiles, semblaient examiner du grossier embarcadère où elles s'éparpillaient. Gériot leur tira des coups de pistolet inutiles. Holroyd reste convaincu qu'il aperçut de curieuses tranchées qui joignaient les maisons les plus proches et qui sans doute étaient l'œuvre des insectes conquérants de ces habitations humaines. En poussant plus loin que la jetée, les explorateurs découvrirent un squelette net, poli, reluisant et vêtu d'un pagne. Ils s'arrêtèrent pour l'examiner à distance. « J'ai la charge de toutes ces existences !» déclara tout à coup Gériot. Holroyd, se retournant, dévisagea le capitaine et comprit peu à peu que celui-ci parlait du ramassis de races mélangées qui constituait son équipage. « Envoyez un détachement à terre, c'est impossible, impossible. Ils seront empoisonnés, ils vont enfler, enfler toujours, et m'insulter, et mourir. C'est totalement impossible. Et si nous débarquons, je dois débarquer seul, seul avec des bottes épaisses, et ma vie entre mes mains. Peut-être que je m'en tirerai, ou bien je pourrais ne pas débarquer, je ne sais pas quoi vraiment quoi faire. » Holroyd se dit que cette ignorance était feinte, mais il n'en laissa rien paraître. « Toute cette affaire, » reprit soudain Gériot, « a été montée pour me rendre ridicule, toute l'affaire. » Ils pagaillèrent alentour, examinant le blanc squelette sous différents angles, puis s'en retournèrent à bord. Là, les incertitudes de Gériot s'aggravèrent terriblement. On mit sous pression, et dans l'après-midi, le bâtiment remonta la rivière avec l'air d'aller demander quelque chose à quelqu'un, et un creux au crépuscule s'en revint jeter l'ancre au même endroit. Après qu'un épouvantable orage eut éclaté, la nuit se fit splendidement fraîche et paisible, et tout le monde dormit sur le pont, excepté Gériot, qui s'agitait en grommelant. Il éveilla Holroyd à l'aube. « Allons, bon !» s'écria Holroyd, « quoi encore ?
J'ai décidé, répondit le capitaine. Quoi, de débarquer ? Hurlerait il s'adressa gaiement. Non, répliqua le capitaine, qui demeura un instant sur la réserve. J'ai décidé, répéta-t-il, tandis qu'Hurlerait montrait des signes d'impatience. Eh bien oui, formula le capitaine. Je vais tirer le gros canon. Ce qu'il fit, Dieu sait ce que les fourmis en pensèrent, mais il le fit. Deux fois, il commanda le feu avec gravité et apparat. Tout l'équipage s'enfonça du coton dans les oreilles, et l'opération prit les aspects d'un engagement sérieux lorsqu'au premier coup, le vieux moulin de la sucrerie fut touché et s'écroula, et quant au second, le magasin abandonné derrière la jetée tomba en miettes. Alors, Gériot éprouva l'inévitable réaction. « Ça ne sert à rien du tout, absolument à rien, opina-t-il. Nous n'avons qu'à nous en retourner chercher des instructions. Ça fera une histoire du diable à cause des munitions. Oh, une histoire du diable! Vous n'avez pas idée, Holroyd! » Un moment, il resta les yeux perdus dans une infinité perplexité. « Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? » s'écria-t-il encore une fois. Dans la journée, la canonnière descendit le courant, et le soir, un détachement emporta le corps du lieutenant pour l'ensevelir sur la berge où les fourmis n'avaient pas jusqu'alors paru. C'est Holroyd lui-même qui m'a raconté par fragments cette histoire. Il n'y a pas 3 semaines. Ces nouvelles fourmis lui restent en tête, et il est revenu en Angleterre avec l'idée, comme il dit, d'exciter les gens contre elles avant qu'il ne soit trop tard. Il assure qu'elles menacent la Guyane, qui n'est pas beaucoup plus d'un millier de miles de leur présente sphère d'activité, et que le ministère des colonies doit s'en occuper tout de suite. Il proclame avec passion « Ce sont des fourmis intelligentes, pensez un instant ce que cela signifie. Ces étranges petites créatures connaissent, raconte-t-on, l'usage des outils, le feu et les métaux, et par de véritables exploits de mécanique, exécutent des merveilles qui renversent nos conceptions européennes, ignorant que nous sommes de ce que peuvent perpétrer les sambas, qui par exemple à Rio de Janeiro en 1841 percèrent un tunnel sous le Paraíba, un endroit où la largeur égale celle de la Tamise au milieu de Londres. En outre, elle s'acquit de ces merveilles par une méthode logique et minutieuse qu'elles paraissent enregistrer et enseigner, et qui vaut celle de nos livres. Jusqu'ici, leur action consiste en une progressive et croissante installation, impliquant le meurtre ou la mise en fuite de tout être humain dans les nouvelles zones envahies. Leur nombre augmente rapidement. Holroyd, tout au moins, est fermement convaincu que les fourmis enlèveront finalement à l'homme la totalité de l'Amérique équatoriale du Sud. Et pourquoi s'en tiendrait-elle à l'Amérique du Sud ? En tout cas, elle l'occupe. En 1815, ou vers cette date, si leur marche est la même, elles s'attaqueront au Capurama Extension Railway et s'imposeront alors à l'attention des capitalistes européens. Et vers 1920, elles posséderont la moitié du cours de l'Amazone. Oh, je fixe à 1950 ou 1960 au plus tard, leur découverte de l'Europe.